Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Excellente soirée avec nous sur Totem, c'est le premier rendez-vous de la saison pour le club sang et or avec l'homme qui reste fidèle à son poste, c'est Jean-Charles Virlogeux. Bonsoir Jean-Charles.
J'ai emmené mon nouveau cartable, vous aussi ?
Oui, avec une très belle trousse d'ailleurs. Notre premier invité de la saison, c'est le coach de Rodez, Didier Santini. Bonsoir Didier.
Bonsoir à vous.
Une émission qui va évoluer un petit peu, on le précise d'entrée, avec deux versions. Une version d'un quart d'heure disponible chaque soir, chaque mardi soir en direct dès 20h, et une autre disponible seulement en podcast sur notre site radiototem.fr. Cette deuxième partie sera un peu plus poussée, on va dire, pour aller explorer le fond de nos idées et pour avoir les analyses de nos invités. Bon, je tiens à rassurer tout le monde, la question à la con, ce rendez-vous évidemment extrêmement attendu. De cette émission, on commence par se remémorer les souvenirs du dernier match et le point du match nul pris sur la pelouse de Pau ce samedi lors de la 5e journée. On revit tout ça.
Sur ce coup d'envoi qui vient d'être donné à l'instant pour les Ruthénois.
Ça a évolué au niveau du score sur pas mal de pelouses de Ligue 2 et notamment sur la pelouse de Nouste-Camp, Jeff, avec des Palois qui sont procurés une occasion qui a fait mouche.
Eh oui, une mauvaise relance ruthénoise, un oubli, un peu d'approximation au milieu de terrain. Et effectivement, après, il y a une passe en profondeur qui permet à Silla de faire la différence. Avec un bon ballon de Hague. Allez, il y a un bon ballon pour Outanji qui est tout seul. Il va pouvoir y aller. Non, c'est pas vrai, il marque pas alors qu'il est tout seul. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est mal joué. Oh, Corentin, excusez-moi, je m'énerve un petit peu, mais là, c'est pas possible de rater des occasions pareilles. Attention à cette attaque paloise avec un deuxième but. C'est pas possible avec encore une faute de placement de la défense. Oh là là, c'est catastrophique. Vraiment, on est dans une très mauvaise passe côté ruthénois. C'est Silla qui à nouveau nous crucifie sur cette action. Alors que les ruthénois viennent de rater la balle de but d'égalisation, eh bien, ils sont tout de suite punis. Et enfin, on a maintenant trouvé Rajo qui remet derrière. Attention, il y a un bon ballon qui va être frappé. Peut-être on frappe. Et oh, c'est but! Exceptionnel! Une superbe frappe de. Je suis content parce que c'est Giovanni Hague qui a tenté sa chance. Là, il était à 20 mètres des buts. Et il a trouvé la lucarne de Camara qui a cru dans un premier temps que la balle allait frapper sa transversale. Mais elle a frappé l'intérieur de la transversale. Et donc un peu contre toute attente, il faut bien le dire, parce qu'on voyait mal comment on allait sortir de cette situation. Et bien les Ruthénois reviennent dans le match, on va dire. Abdallah qui a tenté une frappe du droit. Et c'est Valerio qui va frapper, qui se fait contrer avec une cuisse paloise. Oh, une grosse faute encore. Une grosse faute sur un Ruthénois. Une grosse faute du numéro 17. Il s'agit donc d'un rentrant, c'est Antoine Baptiste, qui prend un jaune d'ailleurs sur le coup. Parce qu'il y avait un Ruthénois qui était en position d'entrer dans les 18 mètres et l'arbitre a jugé qu'il y avait donc effectivement une faute.
Et il est même dans la surface de réparation. Hein.
Penalty ?
Pour moi, il est dans la surface de réparation.
Heureusement que j'ai un de mes collègues palois qui me dit il y a pénalty.
Eh ouais, pénalty, il est dans la surface de réparation, tout à fait, Jeff.
Bradley Danger qui va s'élancer face à Camara. Voilà, il prend son élan, ça va être tiré dans les quelques secondes qui va venir. Il prend son élan et il marque en prenant un contre-pied Camara. Donc c'est le but d'égalisation ici, effectivement, pour les Ruthénois.
Quel soulagement, Jeff, quel soulagement.
Avec les Ruthénois qui vont se replacer. C'est vraiment un match extrêmement surprenant.
De partout donc sur la pelouse de Pau, c'est le résultat de ce samedi. Les commentaires de Jean-François Tefaut que l'on salue au passage. Didier Santini, le coach des Sangers, qui est notre invité ce soir. Au final, coach, heureux d'avoir pris un point où il y avait finalement moyen d'espérer un petit peu mieux selon vous.
Bah écoutez, vu notre première mi-temps, heureux d'avoir pris un point. Je pense que la première mi-temps n'est pas mauvaise dans l'ensemble du match, mais on peut pas exister en défendant de cette façon-là. Le commentateur le dit très bien. Je veux dire. On a été apathique derrière, on a été pas dans les duels, pas dans l'agressivité. Deux, trois fois, on l'a payé cash.
C'est vrai qu'on a cru à un moment que le syndrome de Valenciennes allait frapper à nouveau, parce que Rodez a eu davantage d'occasions en prenant le jeu à son compte. 16 tirs, 7 cadrés, 10 dont 3 cadrés seulement pour Pau. Mais sauf que dans ces 3 tirs, y a 2 buts, presque copier-coller hein, d'ailleurs, en contre. Est-ce que vous diriez aussi que Rodez a joué trop haut ?
Non, non, on savait comment ils allaient jouer, comment ils allaient jouer en contre. Maintenant, il faut de temps en temps mettre le bleu de chauffe. Je pense qu'on l'a mis en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on est rentré un peu comme des stars, certains, en se prenant voilà, pour des bons joueurs. On a de très bons joueurs, mais à un moment, il faut revenir dans les valeurs éthénoises. Il faut aller au charbon. Et puis surtout, quand on est défenseur, la priorité, ce n'est pas prendre de but. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'en marquer. Mais depuis le début de la saison, il y a de très bonnes choses, mais on prend des buts assez stupides. Quoi.
Alors ça, c'est le volet défensif, et vous l'évoquiez, il y a aussi la finition. Il y a eu plusieurs combinaisons, Corredor ou Tonji, qui auraient dû aller au bout. Mais alors, parfois, c'est la dernière passe qui a pêché, la frappe aussi. On pense à celle d'Outonji dans les arrêts de jeu.
Il y en a pas mal. Déjà, ils sont bien trouvés. Ça s'est joué souvent à pas grand-chose. Après, c'est des choix aussi. C'est pas facile de marquer un but. Déjà, on se crée les occasions. Ils arrivent, ils sont jeunes. Il faut qu'ils prennent confiance. Surtout, pas être dans la critique tout le temps, leur dire tu rates. C'est complètement stupide. Ils se les créent. Je trouve qu'ils ont eu une belle connexion. Bah, même après, quand Clément aussi est rentré avec Kylian, il faut continuer là-dessus. À un moment, ça va passer. Mais le plus important, c'est de pas en prendre aussi stupide. Quoi. Parce qu'après, c'est facile de dire ah, il marque pas. Mais quand on donne sur 6 buts, on en donne presque 4. Difficile. Quoi.
Sur le plan offensif, en tout cas, avant la rencontre, vous aviez dit qu'il fallait être plus tueur. C'est un constat qui demeure.
Dans les deux surfaces, il fallait être plus tueur. Mais bon, la plus importante, au départ, c'est défensivement. Vous savez, quand vous mettez la pression à l'adversaire et que vous arrivez à ne pas prendre de but, vous restez à 0-0, vous les mettez toujours sous pression. Après, quand l'adversaire, même s'il n'a pas beaucoup d'occasions, comme Valenciennes, il vous en marque un, ils se mettent tous derrière. Je ne pensais pas qu'ils allaient jouer comme ça, mais ils l'ont fait. Et puis après, c'est aura football et... Et puis ça a tenu ce jour-là, donc ça ne tiendra pas toute l'année, à mon avis, en jouant comme ça. Mais nous, il ne faut pas donner de buts aussi stupides. On a vachement progressé, l'équipe est jeune et elle garde le ballon, elle sait sortir, elle se donne plus de différence de jeu. Mais par contre, la priorité, après, quand on est défenseur, il faut que le mec il aille chercher le but. On ne peut pas laisser rentrer, que ce soit contre Valenciennes ou les deux buts-là. Vas-y, il va marquer. On a ouvert la mer à Moïse, quoi.
Deux buts encaissés donc en première période, mais deux buts marqués en deuxième période. À l'heure de jeu, vous avez tenté une réorganisation tactique, en tout cas ce qu'on a vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez modifié un petit peu votre schéma de jeu en passant à 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants?
Non, on est resté pareil.
Ah, du coup, c'est...
On est resté en 3-5-2, mais joué différemment. Et après, on est passé en 3-4-3. Et on est resté les 4 dernières minutes, 5 dernières minutes. On est passé en 4, je ne sais plus quoi devant quoi. C'est pas inventé. J'ai demandé à Brad de partir dans le milieu de terrain. Peut-être que ça a poussé Luch. Mais non, on est resté. C'est Ahmad qui est passé défenseur central droit et Bubu qui est rentré à droite. Donc on n'avait pas changé. Et Clément qui est passé devant à la place d'Andreas. Mais il y a eu...
C'est vrai que les changements ont un peu semé la confusion.
Pour les gens, oui, pour nous, ils le savent. Après, il y a eu...
C'était fait exprès, ça, d'ailleurs. Ça peut tromper l'adversaire, changer poste pour poste, faire rentrer un joueur et puis en faire rentrer un autre d'un autre poste, c'est pour...
C'est-à-dire quel autre poste qui est entré?
Vous n'avez pas forcément fait rentrer...
Bubu est rentré à axe droit, Clément est rentré avant-centre et Luch est passé milieu gauche comme il joue d'habitude.
C'est juste que Ahmad Nguemsa a reculé un peu d'un cran.
Mais ce qu'il avait déjà fait dans les matchs avant en jouant défenseur central, puisque c'est aussi pour ça qu'on l'a appris, puisqu'il était caméléon, il pouvait jouer à la fois défenseur central, même si s'il a joué, je crois, avec Dijon.
C'est le numéro qui porte, donc déjà...
Oui, c'est important d'avoir des joueurs qui peuvent changer de poste pendant le match. Après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'agressivité défensive déjà, ce qui était intéressant. Il y a eu plus de combinaisons, et puis surtout, ça a frappé. Voilà. Ça a frappé sur le but, ça a frappé sur le pénalty, parce que sur le pénalty, on est deux fois aux 16 mètres, deux fois on frappe, et puis eux, ils n'arrivent pas à dégager le ballon, et puis ils font une faute. Je pense qu'à un moment, il faut en mettre plus de tous les côtés, mais en deuxième mi-temps, on l'a bien fait défensivement. Je pense que ce n'est pas un miracle de revenir au score, mais vu comme c'était engagé, c'est pas mal. Ouais.
On va revenir dans un instant sur ce pénalty, mais intéressons-nous déjà à cette action à l'heure de jeu. Jean-Charles, 63e minute de jeu.
Oui, c'est vrai que ça coïncide quasiment avec les changements. En tout cas, on a l'impression que ça a porté un nouvel élan à Rodez avec ce fabuleux but de Giovanni Hague. Hein. Il pourrait devenir le nouveau Pierre Ruffaut, le préposé aux frappes de mule pour
les
100 euros.
Il a une super frappe, il a mis exactement la même la veille de l'autre côté.
À l'entraînement, du coup ?
Ouais, à l'entraînement, chez qui. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'armer très très vite et de lâcher le pied.
Et quand vous dites de l'autre côté, c'est parce que vous étiez entraîné sur ce stade ?
Non, parce qu'on était la veille à l'entraînement sur un jeu. Il a marqué au 20 mètres, au même endroit, mais il était plus de l'autre côté, donc il a marqué dans la lunette droite. Quoi.
La frappe est belle, en tout cas.
La frappe est belle, il a une très belle frappe.
il a un très très bon pied sur coup de pied arrêté, donc après il faut qu'il s'en serve. Donc c'est son job, et c'est vrai que quand on l'a vu la veille, on en parlait avant, on disait bah, écoute frappe, parce que vu ce qui était parti la veille pour le gardien, c'est pas évident quoi.
On reparlera justement des frappes tentées par Rodez dans les prochaines minutes avec Jean-Charles Virlogeux, mais revenons sur la rencontre. Ensuite, après ce but donc de Giovanni Hag, on va avoir le droit à une fin de match assez folle avec des arrêts, ceux de Lionel Mpassi, notamment la frappe de Boutaïb également contrée par Bradley Danger, et puis donc ce penalty obtenu par les 100 heures avec la vista de Lorenzo Rajo. Est-ce que vous pouvez qualifier aussi ça de vista, ou c'est vraiment un geste qu'il fallait faire à ce moment-là de la partie parce qu'il arrive dans la surface de réparation, être un peu plus rapide que son adversaire?
Déjà, c'était d'être présent dans la surface. On leur avait montré que quand on se retrouve à 4-5 dans la surface, il y a beaucoup plus de zones prises, donc de possibilités d'avoir le ballon. Donc là, sur une frappe de je crois que c'est la première, c'est Hakim, la deuxième, c'est Antoine qui frappe coup sur coup, et Lucho est dans la surface de réparation. On a Clément dans la surface, on a Kylian dans la surface, on a, je crois, Bubu dans la surface de l'autre côté. Donc la surface est bien prise et ils n'arrivent pas à dégager. Le joueur fait une faute. C'est football, mais plus vous êtes dans la surface de réparation, plus vous avez de chances d'avoir l'opportunité de récupérer le ballon ou de marquer, comme on l'a fait contre Saint-Etienne. Mais si on n'est qu'un ou deux dans la surface, c'est très difficile, quoi.
Et donc derrière, penalty, Bradley Danger se charge de ça. Bon, on reviendra dans un instant sur ce qui s'est passé au moment de prendre ce penalty, justement. Mais c'est vrai que Bradley Danger, c'est un peu le maître en la matière, 5 sur 5 avec Rodez depuis qu'il est arrivé.
Ouais, toucher du bois, ouais. C'est pour ça qu'il est tiré.
L'année dernière et cette année. Est-ce que ça soulage justement d'avoir un joueur comme Bradley Danger qui supporte presque aussi bien cette pression au moment de tirer les pénaltys?
Oui, mais bon, il y en a d'autres maintenant. Moi, depuis que je suis arrivé, il est tiré avant. Depuis que je suis arrivé, il les a tous mis, il est bien. C'est vrai qu'il est calme. Il en ratera un jour sûrement, parce que les plus grands joueurs, que ce soit Platini, Maradona, ils ont tous raté des pénaltys, même Messi, je pense.
Le plus tard possible.
Donc, le plus tard possible, mais c'est vrai. Et puis aussi, il faut se rappeler que la saison dernière, il en a eu un pénalty, il l'a donné à Clément. Mmh. Donc il y a aussi cette forme de générosité. Donc c'est sûr que quand il arrive là-dessus, il est très calme et il est posé. Après, on ne sait jamais ce qui se passe, mais par contre, tu sais qu'il y a un pourcentage qui est très élevé au niveau du score.
Les pénaltys pour vous, c'est déjà établi? Les tireurs sont déjà établis?
Oui, il n'y a que lui. Après, s'il décide l'année dernière, quand il l'a vu avec Clément, ils avaient vu ensemble, moi, j'ai pas de problème, Clément tire très bien les pénaltys aussi, ou d'autres.
Oui, mais le préposé,
c'est Brad s'il est sur le terrain.
Ok.
Ouais. Et c'est vrai qu'il l'a fait dans une atmosphère assez électrique, mais il en faut plus pour le déconcentrer. Il en faut plus pour décontenancer Lucas Buades aussi, parce que quand on sait par où est passé ce garçon depuis le mois de juin, c'est lui qui fait tampon, en fait, en gardant le ballon, comme s'il allait le tirer.
Il prend la pression,
et il laisse Bradley Danger se concentrer.
Il l'avait déjà fait, tous. Je pense que c'est intelligent. Au moins, s'ils ne savent pas qui c'est qui tire, ils sont tous allés sur lui, lui parler. Brad était tranquille aux 16 mètres.
Et il attendait. Ouais. Il a le cuir épais quand même, Lucas, parce qu'on imagine qu'il est venu un petit peu l'embêter avec des choses récentes, vous voyez.
On s'en fout. Je pense que... Il est costaud dans sa tête, il en a pris plein la gueule et il sait gérer. Et je pense que tout ce qu'il prend dans la gueule, il faut le transformer en positif derrière, dans l'autre oreille, quoi.
Après, c'est une vraie bonne stratégie de donner le ballon à quelqu'un qui ne va pas tirer pour qu'il prenne la pression du gardien adverse, parce qu'on sait qu'il y a un jeu d'intox qui se joue sur les pénalties.
Ils l'ont très bien fait, c'était pas préparé. Ils l'avaient fait déjà l'année dernière, mais c'était pas préparé. Mais voilà, ils l'ont fait, ils ont été intelligents. Et je peux dire, et Lucas a pris ses responsabilités aussi.
Alors, on a malheureusement pu faire le même constat qu'à Laval, hein, puisqu'on parle de Lucas avec des sifflets qui ont accompagné son entrée en jeu et la plupart de ses touches de balle. Comment est-ce qu'il le vit, ça? Comment est-ce que le groupe le vit, et vous aussi sur le banc, au moment où vous l'entendez?
Moi, un grand sourire au public. Voilà, franchement. Connerie humaine, on ne va pas la changer. Donc, un grand sourire au public. Je me suis retourné, j'ai ri. J'ai souri plutôt. C'est pas un rire, c'est un sourire en disant bon, écoutez, si vous êtes aussi con que tous les autres, continuez, messieurs, dames. Pour des gens qui, à la moitié, qui n'ont même pas vu le match, qui n'ont même pas vu l'histoire, qui n'ont rien vu du tout. Donc, c'est comme ça. Donc, nous, on le vit très, très bien. Lucas le vit bien. Et c'est vous qui en parlez, parce que nous, on n'en parle même pas. J'en ai jamais débriefé ni briefé avec lui depuis.
On en parle parce que c'est difficile de l'occulter.
Oui, écoutez.
Place au sportif.
J'aurais toujours dit, quand je rentrais à un stade adverse, je préférais me faire siffler que me faire applaudir. Donc, comment on se fait siffler? C'est très bien comme ça.
Okay.
On sera ravis de ne plus entendre ces sifflets et de ne plus avoir à en parler. Et d'ailleurs, on n'en parlera pas toutes les semaines.
Des meilleures des réponses a été le but contre Saint-Etienne, évidemment. Didier Santini, qui est notre invité dans le Club Saint-Or, cette première de la saison.
C'est la question conne, réponse conne.
Oui, on a changé de jingle et évidemment, on a pris votre voix, Didier.
Ouais, vous entrez dans le cercle très restreint des joueurs ou des entraîneurs qui ont donné leur voix à la question. Là, ouais.
Il y a eu votre président, fut un temps. Maintenant, c'est votre tour. La question à la con de Jean-Charles Virelogeux.
Alors, on sait que les arrêts de jeu durent plus longtemps hein, maintenant, dans la lignée de ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. On sait aussi que l'UNFP s'est ému de la fatigue supplémentaire que ça allait engendrer pour les joueurs. Mais en même temps, bah, ces arrêts de jeu, ils ont peut-être apporté 4 points à Rodez en 5 journées. But contre Saint-Étienne, de la victoire, et puis le but égalisateur contre Pau. C'est pas mal finalement.
3 points.
Alors oui, 2 plus 1, 3, tout à fait.
Oui, écoutez, moi je suis pour. Moi je pense que le spectateur paye pour voir un match de 90 minutes. Quand vous avez des arrêts de jeu où vous marquez 2 buts en deuxième mi-temps, c'est à peu près 1 minute 20 de... d'embrassade, de ceci, cela, 4 buts dans le match. Là, il y a eu, je crois, 7 minutes, je crois, en deuxième mi-temps et 6-7 minutes en première mi-temps.
6 en première.
Donc, la première mi-temps, c'est vrai que c'était beaucoup plus rare. Des fois, on l'avait. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait eu que 3 minutes d'arrêt de jeu en deuxième mi-temps. Moi, c'est pas 3-4 minutes qui changent, mais je trouve que ça change déjà, un, pour le supporter, parce que si jamais, chaque fois que vous allez vous embrasser, chaque fois que le mec tombe par terre, on s'est battu quand même pas mal de fois, des autres années, moi en tant qu'entraîneur, mais avec d'autres entraîneurs, hein, sur le fait que tu regardais les arrêts de jeu, tu dis, mais c'est pas possible, il y a un mec qui restait 3 minutes par terre, il y a eu 2 buts, il y a eu 6 changements, tu donnes 3 minutes. Moi, je pense que voilà, les gens qui viennent au stade doivent payer pour voir un spectacle, et nous, on doit les faire bosser pour être bien physiquement, et il faut donc s'habituer à ce temps supplémentaire qui pour le moment nous a réussi, mais qu'il faut aussi se donner une grosse réflexion à chaque fois. C'est-à-dire les changements, des fois, on est obligé de les décaler de 5-10 minutes. Il y a plein de choses à nous aussi à apprendre et à revoir et à travailler. Mais il faut aussi faire. Je trouve que quand il reste 1 minute de match et puis que tu marques un but à 1-0 et puis que les mecs s'embrassent, l'arbitre il siffle le coup, et hop, il siffle la fin du match. Non, et pendant 1 minute 30, ils ont glandé, il reste 1 minute 30 et il faut les donner.
Ils ont calculé donc 1 minute 10 par but. C'est pas 1 minute 20.
Ouais, on avait vu avec l'arbitrage qui est venu ici, on était sur 1 minute 10 jusqu'à 1 minute 40, je crois, à un moment sur un but.
Ça, c'est pour les
et après, pareil, en première mi-temps, il y a eu un joueur blessé qui restait plus de 2 minutes.
Le jeu s'arrête,
il faut les donner. Puis ils ont marqué 2 buts, ça fait 4 minutes. Puis il y a eu encore 2 arrêts de jeu, donc bah, il y a eu 6 minutes, 7 minutes en première mi-temps, ce qui était logique.
Et ces buts dans les arrêts de jeu, est-ce que ça dit quelque chose finalement de l'état d'esprit du groupe aussi?
Bah, c'est ce qu'on leur a dit à la mi-temps à 2-0, ça a volé dans les chaumières, ça a bien gueulé. Mais c'était aussi de leur dire qu'ils étaient capables de le faire. Ça ne serait pas un miracle, mais qu'il fallait changer de comportement et d'attitude sur le terrain. Et qui sont capables jusqu'au bout, de manière à un match de foot, eux aussi ont marqué dans les arrêts de jeu. Puisqu'en première mi-temps, ils marquent à la 45 plus 3 ou plus 4.
Ouais.
Donc, s'ils se sont servis des arrêts de jeu de la première mi-temps, ou d'habitude en première mi-temps, c'est tellement rare d'avoir plus d'une minute ou deux, c'était un miracle avant. Oui. Donc maintenant, vous les avez, donc il faut s'y habituer aussi.
Oui, il va falloir l'apprivoiser, effectivement.
Ouais, c'est important, mais moi, je pense que pour le public, pour les supporters, pour le football, c'est mieux.
Bon, si on dresse un bilan rapide avant cette trêve internationale, une victoire, 2 nuls, 2 défaites pour ce début de saison, comment vous le qualifieriez? Encourageant ce début de saison ou plutôt frustrant?
La frustration, ils l'ont tous. Encourageant dans le jeu, dans ce qu'on propose. Maintenant, pas frustrant parce qu'on n'est pas allé les chercher. Je pense qu'il manque 2 à 3 points minimum. Mais on ne les a pas. Donc on n'a pas été à la hauteur par moment pour faire plus mal. Je pense à Laval et Valenciennes, quoi. Donc on doit sortir avec un score différent, au moins 0-0 à Laval, et au moins revenir déjà un partout, ça ferait déjà 2 points. Maintenant, quand on va chercher ces matchs à la dernière minute, quand on va à 2-0, certes beaucoup d'équipes auraient peut-être sombré, et parce que voilà, il y en a qui vont dire « Ah ouais, les défenseurs, ah mais vous marquez pas de but, tout le monde se tire dessus », mais à la mi-temps, ça s'est bien regroupé, et puis c'est reparti en deuxième mi-temps de plus belle, et puis ils ont cru jusqu'au bout. Contre Valenciennes, je dirais qu'on y a cru aussi jusqu'au bout, parce qu'on a eu un nombre incalculable d'occasions, plus dans les 5 dernières minutes, on a eu pas mal. Donc il y a une bonne mentalité. Maintenant, il faut, si on veut exister avec le jeu qu'on prône aujourd'hui et que c'est vraiment pas mal, il faut arrêter de prendre ses buts stupides.
On va dire que contre Valenciennes, le portier Louché, par contre, lui était en état de grâce. Didier Santiniquet, notre invité dans le Club 100 heures. C'est la fin de notre première partie, Didier. Donc, pour la deuxième, rendez-vous directement sur notre site radiototem.fr. C'est la nouveauté disponible en podcast. Et puis, pour les habitués du mardi soir, passez une très, très belle soirée.
Totem, le Club 100 et or. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Suite du club sans erreur en podcast, c'est la petite nouveauté de cette saison. On continue notre discussion avec le coach de Rodez, Didier Santini et Jean-Charles Virlogieux. Didier, le mercato est désormais terminé hein, au moment où on se parle. Est-ce que c'est un soulagement quand on est coach?
Oui, c'est un soulagement. Déjà, ça s'est bien passé. Puis c'est un soulagement parce que je pense que certains de mes joueurs avaient un peu la tête vendredi soir encore
au mercato.
Donc... J'espère que c'était à ça, vu leur piètre performance. Et que c'est aussi logique, parce que des fois, on entend des choses, on lit des choses dans les journaux, et puis peut-être qu'on attend, parce que c'est aussi logique. Nous, on est là aussi, le club, en accord, le président, Greg, de faire des joueurs, et puis comment ils s'en aillent pour une somme d'argent.
Greg Ursule, le manager général.
Donc à un moment, on s'attend à ça tout le temps. Donc peut-être qu'un ou deux joueurs attendaient, avaient eu des bruits et puis ils étaient un peu ailleurs. Quoi.
Eh ben, sur la séance d'entraînement du jour J ?
Non, sur le match.
Ah, okay. C'est vrai qu'on sait que Serge-Philippe Royaou, par exemple, faisait partie des joueurs très convoités jusqu'aux dernières heures. Vous aviez dit, vous, j'espère qu'il n'y aura plus de départ maintenant. Et ça, il fait partie des joueurs dont on pouvait craindre le départ. On peut imaginer effectivement que cette fin de mercato a pu le déstabiliser un petit peu.
Bien sûr, exactement.
En tout cas, avoir réussi à retenir tous les titulaires qui n'étaient pas prêtés, ça vous a permis d'aligner 7 joueurs qu'il était déjà la saison passée, ce week-end. Et encore, c'est presque un contre-exemple, puisqu'il y en a eu, il y a eu un peu de changement quand même sur cette rencontre. Il y a eu du 109. Contre Saint-Étienne, par exemple, il y avait 8 ou 9 titulaires de la saison dernière. C'était un vœu, ça, sur lequel vous avez insisté à l'intersaison, conserver un noyau dur, pas repartir de zéro.
C'était de garder 14 joueurs qui avaient presque tous fait la saison dernière, qu'on ne pouvait pas garder Marvin, on ne pouvait pas garder Soumanou, mais c'était de garder tout le reste. Parce qu'ils étaient dans les principes, ils sont allés au charbon, ils sont allés se battre sur le terrain pour sortir une belle deuxième partie de championnat. Et puis c'était aussi de se dire qu'ils allaient amener tout de suite un plus à tous les nouveaux, leur donner les principes, parler, parce que nous, on parle, on fait avec Emeric, on parle de tactique quelques jours, on parle, mais après c'est eux qui jouent et il faut qu'ils se parlent. Et qu'ils se donnent des idées entre eux. S'ils viennent chaque fois nous voir sur le banc de touche, comment je fais ça? Non, c'est vous qui jouez, maintenant vous courez, on vous a tout donné. On aide, mais il faut aussi sur le terrain qu'ils aient une communication, et c'est important. Je pense que contre Ajaccio, je crois qu'on départ avec 9 joueurs qui étaient là la saison dernière.
Ouais. L'expérience instruit peut-être, parce que c'est vrai que votre prédécesseur n'a pas forcément eu cette chance saison dernière, par exemple, et que ça avait un peu mis le feu, il faut reconnaître, l'été dernier.
Ouais, notamment avec les départs à l'époque de Julien Célestine et d'Adilson Malanda. On parle d'une saison il y a maintenant 2 ans, hein, du coup, avec Laurent Peyrelade. On parle juste du mercato avec vous, Jean-Charles. Le nom de Martin Adeline est revenu assez souvent dans les bouches des supporters. Comment vous l'avez vécu, vous, ce transfert-là, Martin Adeline, qui du coup est reparti en...
À Annecy.
Est reparti à Reims pour revenir en Ligue 2 à Annecy.
Écoutez, je connais l'histoire. Donc, Martin, on voulait qu'il reste avec nous, qu'il soit prêté par Reims. Mais Reims avait fait une offre d'achat avec, je crois, Strasbourg. Donc ça a duré jusqu'à la dernière semaine, juste la semaine où il a signé. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu... Strasbourg a fait son... Avec Chelsea, tout plus d'argent. Et les gens qui sont arrivés pour... À Strasbourg, on rompu l'accord qu'ils avaient entre eux. Et quand on me l'a proposé, malheureusement, notre milieu de terrain, il était plein. Et il a super qualité, je l'adore. J'ai passé beaucoup de temps avec lui l'année dernière. Mais rajouter un joueur pour rajouter encore un joueur...
On n'empile pas, quoi.
On ne peut pas empiler. Si on est Rodez, on ne peut pas empiler. On a 17 joueurs qui vont jouer presque toute la saison. 16-17 joueurs. Je crois que Francaise disait entre 15 et 17 joueurs grand maximum. Donc d'un seul coup, vous avez un milieu de terrain qui est compétitif, qui est bon. Avec 5 très bons joueurs, vous rajoutez un 6e, vous jouez à 2, vous jouez à 3, vous créez de nouveaux problèmes. Quoi.
Un peu de déception quand même qu'il soit parti à Annecy, un concurrent direct ?
Non, je suis content pour Martin qu'il puisse jouer, qu'il va jouer, il va apporter. Voilà, moi j'aurais préféré qu'il soit chez nous dès le premier jour de la reprise.
Voilà. Martin Adeline qui faisait partie des joueurs prêtés, il y en a beaucoup moins cette année. Hein. Ça aussi, c'est un peu le même fil conducteur que ce qu'on disait tout à l'heure. C'était avoir des joueurs qui s'inscrivent dans la durée.
Mais les prêts de la saison dernière, je trouve qu'on était souvent, on parle dans les clubs, ouais, les prêts,
oui, mais
qui pensent à eux, et les prêts qui, oui, mais les prêts qui sont l'année dernière, on fait quand même une super saison.
Mais c'était pas des mercenaires. Ouais, ouais, d'accord.
Exactement. Non. Souvent, on va entendre ça. Ils étaient.
C'est parce pas ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, à la fin de la saison, c'est au revoir.
Je pense que ça soit Greg ou le Prez, dans la discussion, dans les joueurs qui viennent, c'est mentalité importante. Maintenant, si on a eu beaucoup de prêts, on nous a proposé beaucoup de joueurs. Après, pareil, c'était pas pour empiler, quoi. Mmh. Voilà. Après, bon, la priorité d'un prêt, il faut au moins qu'on arrive à lui proposer un temps de jeu à plus de 50%. Si c'est pour prendre un joueur, lui dire tu vas jamais jouer parce qu'à ton poste, il y a un top player et tu vas pas jouer, aucun intérêt. Mmh. Alors, j'ai dû recevoir, je sais pas combien de milieux de terrain, le président, Greg aussi, on en a reçu. Et le seul milieu de terrain, moi, pour moi, c'était Martin. Après, voilà. Après, moment,
et ça s'est pas fait malheureusement.
Ça, c'est quand il y a eu quelqu'un m'a appelé, bah, c'était trop tard parce que on était déjà blindé là-dedans et puis ça aurait été stupide et même difficile même pour lui parce que c'était même pas sûr qu'à un moment la concurrence est exceptionnelle, mais après on peut pas non plus avoir un nombre incalculable de joueurs à ce poste-là, quoi. Mmh.
Alors on a le sentiment que Rodez peut osciller entre deux options cette saison, ce qui traduit, on a vu un peu, en tout cas, deux visages chez Rodez, ce qui traduit une certaine richesse tactique quand même. Le Rodez qui se projette très vite devant, ça on l'a vu contre Ajaccio ou Saint-Etienne par exemple, et puis celui qui prend le jeu à son compte, avec Taibi comme créateur par exemple. On a bien résumé, c'est un peu les deux.
Oui, mais je pense que contre Saint-Etienne, on est allé vite, mais je pense que les 20 dernières minutes, on a eu tout le temps le ballon, parce qu'on les a... On les a embêtés tout le match avec cette vitesse. Et puis après, ils ont souffert physiquement. Et nous, les 20 dernières minutes, on a commencé à garder le ballon de plus en plus. Et on sort sur une grosse possession quand on marque. Maintenant, chaque année, un club comme Rodez, avec, pareil, je dirais, le Prez, Greg, Darb, moi, c'est de donner des idées, c'est d'essayer d'apporter une pierre de plus. Donc, c'était d'avoir des joueurs techniques, avec une grosse mentalité, gros coureurs. Je pense qu'Oanis et Giovanni le sont. Ça, c'était important. C'était dans mes profils, vraiment, les deux plus gros profils donnés. Et donc, c'était important que ces postes-là soient faits par des joueurs déjà qui ont, ou au niveau, qui ont joué un peu en Ligue 1, comme Wanis, mais par contre, qui a un potentiel physique exceptionnel, ou par Giovanni, qui a joué très jeune en Ligue 2, qui a un gros potentiel, qui est quelqu'un qui est dur au contact, au milieu de terrain, qui cavale beaucoup. C'était important qu'on reste dans nos valeurs et de monter notre intensité chaque match.
Comment ça se passe ? Vous donnez des profils ou vous donnez directement des noms ?
Non, profil. Non, je n'ai pas la prétention de connaître. Des fois, on m'appelle pour me demander des joueurs. J'avais proposé un joueur mais qui a signé à Ajaccio que j'avais eu, mais on cherchait un profil un peu différent. Donc, si on ne trouvait pas...
Si vous l'avez déjà eu dans votre passé, peut-être que ça peut
favoriser aussi les relations. Oui, mais après, il faut que ça aille aussi exactement dans ce qu'on recherche. Voilà, moi, j'aime les joueurs caméléons. Là, non, on a tous les profils aujourd'hui donnés, je dirais, depuis la fin du championnat l'an dernier, à 95%, c'est exactement le profil qu'on voulait. Après, c'est aussi avec nos moyens.
Bien sûr.
Mais par contre, c'est à nous de les faire bosser. Mais par contre, dans ce qu'on voulait au niveau intensité, course, joueur offensif qui déclenche énormément de sprints, qui fatigue l'adversaire, qui est en devenir, qui va beaucoup apprendre, des joueurs au milieu de terrain, des joueurs derrière de... intelligents, savent sortir les ballons, qui sont aussi très sûrs défensivement, c'est ce qu'on avait demandé et on l'a eu.
Petite parenthèse. Donc là-dessus, vous avez été écouté.
Ouais, non, et puis ils ont fait un super boulot.
Petite parenthèse, le Rodez qui prend le jeu à son compte, on l'a vu contre Pau aussi, avec de beaux mouvements d'ailleurs dans la construction, hein, qui n'ont pas payé, mais et avec un Outondji qu'on a vu parfois très excentré. Est-ce que c'était voulu de le voir autant s'écarter de l'axe, surtout en début de match?
Ça dépend si on a le ballon ou si on n'a pas le ballon. J'ai vu le match pas mal de fois, je l'ai découpé entièrement. J'ai trouvé qu'ils étaient bien placés dans ce qu'on avait demandé, qu'ils sont arrivés à bien combiner. Après, c'est sûr que quand on est en train de défendre, ils sont obligés de se mettre du côté. Voilà, c'est un peu tactique ce qu'on travaille ensemble avec eux par rapport où est l'action. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de combinaisons. Il y a eu pas mal de ballons qui sont joués. Le football, ça ne se joue à rien du tout, qui sont joués entre 10 et 50 cm ratés. Ben voilà, c'est à moi de les faire bosser pour récupérer ces 10 à 50 centimètres. Ils sont jeunes, ils bossent bien, ils se donnent sur le terrain. Il faut dire quand même que Andreas est sorti à la 60e, je crois.
63e peut-être.
Et je crois qu'il est à plus de 27 sprints à haute intensité. Mmh. C'est-à-dire que c'est même pas ce que font certains dans 90 minutes. Ils n'arrivent même pas à 15-20. Donc il était à 27 sprints. Donc franchement, il a cavalé. Après, c'est le job.
Parlons justement de cet aspect offensif. Avec Andreas Nkunji, pas tout seul évidemment, Clément Després ou encore Kylian Corridor. On en a parlé dans cette première partie d'émission, cet aspect offensif et notamment être clinique. C'est un aspect qui reste évidemment nettement perspectible. On est d'accord là-dessus, coach ? On
peut oui, mais c'est comme défensivement, c'est pas que les défenseurs. Offensivement, contre Valenciennes, Serge a raté, Joris a raté, les milieux de terrain ont raté. C'est qui va se retrouver dans les situations ? Est-ce que c'est un coup de pied arrêté ? Alors c'est sûr que quand ils vont sur une attaque rapide, très très vite, qu'ils se retrouvent seuls face au gardien, mais avec un mec à ses trousses, qu'il enroule le pied et que le gardien fait un bel arrêt... Est-ce qu'il a raté ? Est-ce que le gardien fait un bel arrêt ? Moi, je vais vous dire que le gardien fait un bel arrêt et que nous, maintenant, c'est à moi de le faire travailler encore plus de spontanéité. Mais déjà, il se les crée et franchement, c'est pas mal. Après,
voilà. Bon, partons du postulat qu'on se crée des occasions, que Rodez se crée des occasions. Justement, ce problème d'efficacité, c'est juste un souci de travail, de perfectionnement ?
Non, je pense que c'est de la confiance. C'est jamais évident de marquer des buts.
On parlait de confiance parce que pour l'instant, ils n'ont toujours pas trouvé le chemin défilé.
Voilà, il ne faut pas qu'ils perdent confiance. Ils travaillent super bien à l'entraînement, tous. Hein, les 5-6 qui sont offensifs. Il y a Yanis, il y a Taïri qui vient d'arriver. Ils font des spécifiques le jeudi. Mettent les ballons dans certaines zones. Comment sont les gardiens ? Comment travailler ? Donc voilà, il faut... Il faut leur laisser du temps. Quand ça va passer, ça va passer... voilà, après, ils sont performants à l'entraînement, ils sont performants déjà dans ce qu'on leur demande au niveau des courses. Vous savez, ce que j'ai dit un jour à Andreas, c'est que je l'ai pris, je ne l'ai pas pris parce qu'il marquait 20 buts par saison, j'ai pris parce qu'il courait.
Donc déjà, il court vite déjà.
À la cour, fait des différences, fatigue l'adversaire. Et puis après, on va travailler pour mettre au fond. Mais c'est le plus dur. Citez-moi le joueur d'Angers, d'ailleurs, qui a marqué plus de meilleurs buteurs d'Angers, personne ne le connaît. Je veux dire, aujourd'hui, vous connaissez les meilleurs buteurs de tous les championnats, mais il y a des équipes de Ligue 1 où le meilleur buteur de leur équipe est à 4-5 buts. Mmh. Voilà, donc nous, déjà, on n'avait pas les moyens pour prendre des joueurs qu'on nous a proposés qui étaient à Sochaux, je ne sais pas combien, à 40-50 000 euros par mois. Donc déjà, si on les prend à ce salaire-là, il faudrait être sûr qu'ils marquent 20 buts par saison. Donc on n'est pas sûr.
Et ce n'est pas gage de qualité.
Exactement. Et eux, c'était des gages de qualité. Après, c'est à nous les faire bosser. Après, on a aussi le problème de Kylian qui n'a pas fait un match de la prépa, donc qui est arrivé avec... 3-4 semaines de retard au niveau de tout ce qu'il fait clinique, tout ce qu'il fait dans le jeu et ce petit manque qui lui manque. Mais quand ils vont trouver tous, Clément s'est blessé, Tariq est arrivé au mauvais moment. Quand ils vont arriver à trouver les bonnes connexions en tous ensemble, ça va super bien marcher. Donc c'est pas leur dire tu rates, t'es nul, c'est n'importe quoi. Moi, si j'étais moi entraîneur en disant ils ratent, ils sont nuls, j'ai perdu à cause d'eux. Non, ça serait une grosse bêtise. Ils font des très bons matchs. Après, on sait que c'est hyper difficile pour marquer. Moi, j'étais bon pour dégager, pas pour marquer.
Après, chacun ses compétences.
Oui.
On demande à un attaquant de marquer, on lui demande moins de défendre. Hormis à Clément Després. Hormis à Clément Després dans le domaine aérien, par exemple.
Aujourd'hui, dans le football moderne, le boulot qu'ils font défensivement, fois, on le voit pas, mais il est.
Oui, mais c'est un travail de harceleur.
Ouais, mais ça bouffe de l'énergie.
Ah non, mais on est d'accord.
Donc, à un moment, il faut qu'ils arrivent des fois, peut-être, voilà, que des fois, ils le font trop et qu'il faut garder ce juste énergie. Pour pouvoir mettre quand
pour avoir le brin de lucidité nécessaire voilà. Quand on arrive face au but.
Mais j'ai aucun doute sur tous qui vont planter des buts. Quoi.
En tout cas, Rodez tente ça, on ne peut pas lui enlever. Rodez joue davantage cette saison avec une stat qui semble quand même le montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le RAF est la 5e équipe à avoir le plus frappé au but depuis le début de la saison. Alors certes, il n'y a que 5 journées, mais 5e équipe avec un ratio de tirs cadrés de 39%. Quand même, c'est pas déshonorant.
Apparemment,
on est remonté ce week-end.
Le coach n'est pas vraiment d'accord avec.
Le nombre de fois. Je pense qu'on est niveau 39%.
On doit faire mieux du côté de Rodez.
On doit faire mieux parce que ce week-end c'était pas trop mal, mais contre Valenciennes, je crois qu'on est à 2 tirs cadrés. Quoi.
Faut monter à 50.
Oui, bon après, c'est toujours ça dépend des frappes que tu fais. Et des fois, vous savez, dans les frappes, ils comptent une frappe aussi de
les poteaux, on sait que c'est pas cadré. Voilà.
Dans les stats de Valenciennes, il y a quand même 7 tirs cadrés. Ouais. Notez dans les stats, attention. Est-ce que c'est des tirs cadrés ?
3 tirs cadrés.
Là, vous étiez à Valenciennes ou après ?
Oui, à Valenciennes.
À Valenciennes.
7 tirs cadrés, 19 tentés, 7 cadrés. Mmh. Après, il y a, voilà, en compte, dans les stats, les tirs qui peuvent être contrés ou... voilà. Donc,
Mais on a une belle possession, on doit encore plus mettre le ballon devant le but, on doit avoir plus de présence encore, tenter plus de choses, mettre un peu plus de folie. Ils sont capables physiquement. Là, on leur disait que par rapport au match de Pau, Thomas leur disait qu'ils avaient ils avaient de bonnes performances, mais que pour lui, ils étaient qu'à 80% de ce qu'ils pouvaient faire.
En tout cas, effectivement, 5 journées seulement, mais ça dit quelque chose, cette place numéro 5 en termes de frappe. À titre indicatif, la saison dernière, on s'est arraché les cheveux pour calculer ça. Je ne sais pas si la stat, vous l'aviez. La saison dernière, Rodez était la 14e équipe en nombre de frappes.
Donc oui, mais on n'avait marqué qu'un but, je crois que c'était Kylian Amiens, je crois.
Sur la totalité de la saison.
Hein. Ouais, mais non, mais il le travaille beaucoup en entraînement. Après, il faut que ça déclenche. Moi, ce qui me plaît sur le pénalty, c'est qu'il y a eu 2 tentatives de frappe.
Qui amène le pénalty.
Et d'Hakim, et de leur montrer, de dire voilà, à un moment, quand vous frappez dans la boîte, que vous mettez, que ça va taper tibia péroné, que ça va aller au second poteau, s'il y a du monde dans la surface, stratégiquement, tu peux récupérer le ballon tout de suite. Donc, n'hésitez pas.
On fait un point rapide sur l'infirmerie, peut-être.
Allez, on vous écoute, docteur.
Outre Kevin Boma, mais d'ailleurs, Didier Santini va pouvoir nous le confirmer, il est bien placé, mais outre Kevin Boma et Eric Vandenabel qui sont absents de longue durée, elle est quasiment vide, cette infirmerie, on est d'accord?
Il n'y a qu'Eric. Kevin, il a joué 90 minutes avec la réserve ce week-end.
Il est de retour.
Donc,
excellent,
il s'entraîne depuis pas mal de temps avec nous, mais en joker. Et là, depuis 15 jours, il monte en intensité. Et il a joué 90 minutes avec la réserve contre Nîmes vendredi soir avec Flo. Donc, c'est bien. Donc, il y a... que Eric, malheureusement.
Dans son infirmerie.
Flo, on précise, Flo Reich, l'entraîneur de l'équipe réserve de Rodez.
Il manque du monde cette semaine, mais c'est parce que Rodez aussi a ses internationaux sur le pont. Lionel Mpassi avec le Congo, on est habitué maintenant, mais aussi Andreas Outondji, dont on a beaucoup parlé, avec le Bénin. Il dispute lui aussi les éliminatoires de la CAN. Et puis il y a Tairik Arconté. Arconte ou Arconté, d'ailleurs? Les deux.
Faudra lui demander.
Vous l'invitez, vous demandez.
Il a été retenu en sélection de Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est retenu en sélection de Guadeloupe? Eh bien, on dispute des journées de la Nations League en zone CONCACAF.
Et alors, Hakim Abdallah a été retenu avec sa sélection?
Oui, c'est lui qui n'a pas voulu y aller. Okay. C'était un match amical et c'était très, très, très loin. Et
parce qu'on a vu qu'il était convoqué
dans
sa sélection.
Non, il a demandé. Voilà. C'était très loin. C'était pas un match officiel. Et il ne rentrait que le jeudi soir ou le vendredi matin, la veille du match d'Angers. Et je pense que c'est très intelligent de sa part. Parce que je crois que c'était en Afrique du Sud.
Oui, donc, le déplacement aurait pris un peu d'énergie. Quoi.
Ah, je ne suis pas sûr qu'il aurait été frais pour jouer un match de foot.
Ouais, on a besoin d'un Hakim Abdallah à fond les ballons.
Ouais. Voilà pour la petite précision, parce qu'on l'a vu dans sa liste de sélection. Ah, mais... okay.
Bon,
ben
voilà, il y avait aussi Kevin Boma qui était sélectionné. Mm-hmm. Après, donc, on avait vu directement avec lui en leur disant que, bah, écoutez, il n'avait pas fait un match avec nous, que ce serait stupide qu'il aille là-bas, que c'était mieux qu'il continue à bosser et qu'il travaille bien. Et Kevin les a appelés, leur a dit. Et la preuve, c'est qu'il a joué vendredi, donc c'est super.
Didier Santini qui est notre invité dans le Club 100 et Or. Dernier rendez-vous, un petit quiz.
Le Club 100 et Or.
Petit quiz pour en savoir un petit peu plus sur votre perception de vos joueurs. Tout simplement, coach Didier Santini, vous me répondez quasiment du tac au tac. Je vous laisse très peu de secondes. Deux secondes, allez, trois secondes et je suis généreux. Qui est selon vous, dans votre effectif, le plus endurant?
Wanis.
Le plus technique?
Oh, Brad.
Le plus massif physiquement?
Clément.
Le plus rapide?
Andreas.
Le meilleur ambianceur de vestiaire?
Hakim.
Qui est le plus collectif?
Lucho.
Qui est le plus drôle selon vous?
Je sais pas. Lionel.
Et le plus chambreur alors?
Le plus chambreur? Brad, il est pas mal.
On sait que les coachs aiment pas trop ça. Qui est le plus en retard?
Kevin Boma.
Qui est le plus corporate, celui qui a le plus l'esprit club?
Ah, Joris.
Qui est le plus maladroit? Maladroit, attention, dans la vie de tous les jours, pas forcément que sur un terrain.
Non, franchement...
Il n'y a pas de maladroit?
Non.
Il n'y a pas un qui a réussi à renverser un petit pichet quand il y en était un déplacement
Non, je n'ai pas de souvenir là-dessus. Non.
Qui est le plus travailleur, alors, selon vous, dans votre effectif?
Écoutez, là, Stone. Ouais.
Stone Mambo?
Ah ouais, Stone Mambo, on me l'avait dit, c'est une machine. Et je suis là, presque il est là quand j'arrive. Quoi. Il est déjà là, il bosse, c'est extraordinaire. Professionnel extraordinaire. On l'a pris déjà sur le terrain, dans tout ce qu'on a vu. Mais après, moi, quand j'ai appelé des gens qui le connaissaient, c'est génial d'avoir un mec comme ça. Quoi.
Donc il va apporter quelque chose à Rodez, ou en tout cas l'état d'esprit.
Oui, oui, et puis la saison est longue.
Très bien. Et dernière question dans ce petit quiz de qui est le plus mal coiffé selon vous?
Le plus mal coiffé.
Maintenant qu'Hugo Bonnet est parti, c'est...
Qui c'est qui est mal coiffé?
Selon vous?
Oui, oui. Antoine.
Antoine Valério.
Il est pas mal coiffé, mais c'est le top.
Ah, le pauvre, il est maudit avec ses cheveux.
Et
on lui en a parlé, évidemment, quand il est venu ici.
Oui, sa ressemblance capillaire avec D'Artagnan.
Et avec Lorenzo Rajo.
Selon Jean-Charles Villon-le-Jeu, avec Lorenzo Rajo.
Qui a nié farouchement.
Mais voilà, ils ont nié tous les deux. Ils n'ont pas la même texture de cheveux, apparemment. Voilà, si vous voulez,
mais c'est vrai que quand tu les vois d'en haut, il y a des gens qui se trompent.
Voilà,
c'est
ça.
C'est vrai.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour cette première de la saison.
Merci
coach Didier Santini. Et puis évidemment, on se donne rendez-vous pas ce week-end, mais le week-end prochain avec la réception de Angers directement à Paul Lignon. Merci beaucoup d'avoir été
avec nous.
Merci
à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous. Au revoir.
Le club 100 et or sur Totem.